Héloïse et Sophie sont commissaires priseurs dans la région, ainsi qu'en Île-de-France et en Normandie. Elles se sont connues au sein de leurs études et ont été diplômées dans la même promo en 2023. Aujourd'hui, elles sont consoeurs et ont créé leur propre maison de vente aux enchères, Mirabili. Leur objectif est de démocratiser leur métier et le faire connaître dans les régions en allant directement à la rencontre des habitants locaux.
On accorde énormément d'importance en fait à la mobilité, au fait d'aller complètement à la rencontre des gens. Un petit peu comme un médecin de famille qui irait dans les familles, qui fait partie aussi de la vie des familles et de la vie des objets qui les accompagnent. Donc en fait, nous, on est très mobile. Héloïse est très mobile sur la région lilloise, moi sur la Normandie à peu près à 50-50 du temps, entre la Normandie et Paris. Et en fait, le but, c'est pas forcément d'être attaché à un endroit en particulier, mais vraiment de prendre le temps, de passer du temps avec les gens, d'aller à la rencontre de ces personnes-là, d'aller dans les maisons et de voir aussi les objets dans leur contexte. Parce qu'en fait, on comprend toujours mieux un objet quand on le voit dans le contexte où il a été, où il a vécu, dans sa région d'origine. Et donc ça, c'est une précieuse mine d'informations pour nous.
Aussi, je pense que ce qui est important, c'est que on se rend compte que c'est un métier où ça peut paraître très impersonnel, enfin même très intrusif, où on est consciente qu'on entre dans l'intimité des gens, qu'ils ont besoin d'être en confiance. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le lien de confiance, il est beaucoup plus présent quand on intervient dans des régions qu'on connaît bien. Donc, en l'occurrence, c'est vrai que le lien se fait beaucoup plus rapidement quand je suis dans les Hauts-de-France, qu'on discute et qu'ils voient qu'effectivement, j'ai toujours grandi en région lilloise, que je connais bien la région, les peintres de la région, l'art aussi régional, puisque chaque région a ses spécificités. Et en Normandie, c'est la même chose aussi. Je pense qu'il y a vraiment des tempéraments aussi dans chaque région. Dans le Nord, on va dire que les gens sont très chaleureux. Enfin, chaque région a un peu sa personnalité. Et quand on a grandi dans la région en question, on arrive beaucoup mieux à le saisir. Et comme c'est un métier, on est au cœur non seulement de l'histoire des objets, mais aussi de l'histoire des familles. Il y a beaucoup de ressorts psychologiques dans notre métier. On doit vraiment s'adapter et cerner le profil des personnes, pouvoir les rassurer, entrer en confiance. Et ce lien de confiance qui est le cœur de notre métier, on arrive plus facilement à le créer quand on intervient dans des régions qu'on connaît très bien.
Justement, vous organisez aussi des journées d'expertise dans des lieux un peu plus atypiques où on n'a pas forcément l'habitude de voir des commissaires priseurs. C'est justement pour garder ce lien de confiance que c'était important d'avoir ce lien-là avec les personnes.
Exactement. Mais en fait, alors moi en Normandie, j'ai organisé des journées d'expertise, notamment dans un petit salon de thé. Donc toujours en fait pour dédramatiser ce contact au commissaire priseur, pour vraiment faciliter l'échange, la détente aussi, le côté convivial, puisque c'est très important. J'ai fait également des journées d'expertise dans des mairies. Donc là, c'est plutôt le côté service un peu municipal, service de proximité. Voilà. Et puis là, pour le début de l'été, il y a des projets éventuellement dans des lieux plus culturels pour pouvoir aussi développer un propos. Donc par exemple, dans des petits manoirs, dans la périphérie de Rouen, des choses comme ça, où on va pouvoir parler aussi d'architecture normande avec les gens, de patrimoine, de ce qui se passe dans la campagne, des différents courants artistiques qui se sont développés à ces endroits-là. Et donc essayer de lier ces événements avec quelque chose de plus culturel, prendre un petit peu de hauteur, et puis en fait que les gens repartent non seulement avec une estimation, avec une idée un petit peu plus précise de ce que c'est que ce qu'ils nous apportent, et puis avec une connaissance du contexte, essayer de replacer les objets dans leur contexte de création technique et historique.
Effectivement, on ne se rend pas compte, mais au fur et à mesure des rencontres, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les gens nous livrent souvent qu'ils sont impressionnés par les salles des ventes, par les commissaires priseurs. Il y a beaucoup de gens qui s'excusent, qui disent « mais on ne veut pas vous déranger », qui ont vraiment cette impression qu'aux enchères, ce qui mérite d'être discuté et mis en valeur sont uniquement des objets qui vont valoir plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors que ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, le quotidien des enchères, c'est aussi de passer sous le marteau le quotidien de la vie des gens et les objets qui sont un peu marqueurs sociaux, marqueurs historiques. Donc ça va aussi bien du petit lot d'argenterie à quelques dizaines d'euros en métal argenté Christophe, que des lots beaucoup plus importants qui sont vraiment des morceaux d'histoire dont on découvre aussi le parcours. Donc je pense que nous, c'est aussi dans cette approche-là qu'on veut aller vers les gens dans des lieux qui démocratisent un peu le métier. C'est de leur faire comprendre à quel point on s'adapte à tout type d'objet, à tout type d'histoire, et qu'il n'y a pas de discrimination à avoir sur le type de bien à porter ou de honte à avoir en n'osant pas déranger en quelque sorte les commissaires priseurs, alors que c'est vraiment notre métier de nous mettre au service, comme le disait Sophie, à la manière d'un médecin de famille, d'un notaire de famille, vraiment d'être en lien avec les familles et leur histoire.
hors journée d'expertise que vous pouvez organiser, les personnes peuvent vous contacter aussi via un formulaire pour vous proposer leurs objets. Comment justement vous organisez vos journées? Est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que vous avez justement un local où les gens se déplacent? Comment ça s'organise?
Alors nous, on préfère aller à la rencontre des clients. Effectivement, vous parliez d'un petit formulaire de notre site internet par lequel on peut nous communiquer. En général, les gens font une démarche, nous contactent, nous envoient quelques petites photos d'œuvres qu'ils ont éventuellement à nous présenter. Et puis nous, on se déplace soit dans Paris, en région parisienne, en Normandie, dans les Hauts-de-France. On prend la voiture ou le métro et on va voir directement. Notre mission, c'est vraiment d'aller au contact des gens qui souhaitent faire appel à nous. Et puis, il y a tout un autre pan de notre activité. Comme disait Héloïse, il y a aussi tout un pan un peu plus juridique. Donc, on travaille par exemple avec un certain nombre de notaires dans nos différentes régions qui font appel à nous dans le cadre de successions. Donc, quand une personne décède, il y a un calcul. Je vais pas vous expliquer en détail, mais il y a un calcul qui est fait pour pouvoir calculer l'imposition. Des héritiers. Et donc nous, en fait, on intervient dans le cadre des inventaires de succession pour pouvoir optimiser au maximum cet impôt qui va être prélevé et le calculer de la façon la plus juste possible et pas en appliquant un forfait de 5% qui est appliqué si jamais un commissaire-priseur ne se déplace pas. Et puis on s'occupe aussi des inventaires d'assurance. Des gens qui veulent faire assurer toute une collection d'œuvres d'art ou on a eu récemment de maroquinerie, en cas de dégâts, en cas d'incendie, en cas de vol, Donc nous, on fonctionne aussi avec les assurances. Et puis tout un tas d'autres partenaires qui font appel à nous pour du conseil de temps en temps.
Quand vous recevez une photo, par exemple, on vous envoie via le formulaire ou via votre mail, quand vous arrivez sur place, ça vous est déjà arrivé d'être surprise par justement la valeur de l'objet qui, d'un premier abord, n'était pas forcément peut-être ce que vous aviez pensé au départ?
Ça, je pense que c'est vrai que c'est très fréquent avec tout un tas d'objets, mais notamment les objets qu'on ne peut pas vraiment évaluer soi-même. Donc là, j'avais eu le cas dans une précédente maison de vente où je travaillais, où par photo, j'ai juste reçu deux pichets en céramique et en dessous, il y avait DG. Donc moi, j'aime beaucoup la céramique contemporaine. Donc tout de suite, je me dis, c'est Denise Gattard. Et Denise Gattard, donc, c'est une céramiste du XXe siècle qui a une belle cote qui continue à bien évoluer aux enchères. Et là, typiquement, la cliente ne savait pas ce qu'elle avait sous les yeux. Elle a juste envoyé en se disant, ils ont quand même une jolie forme, ces pichets, je vais demander. Et en fait, Denise Gattard, la moindre pièce en céramique, surtout des pièces un peu plus rares, ça fait autour de 4 à 6 000 euros. Donc ça, c'est vraiment les exemples types de notre métier où ce qui paraît pas évident pour quelqu'un, nous, parfois, vraiment, en un clin d'œil, surtout en fonction de nos affinités, de ce qu'on aime dans l'art, on voit juste une photo et en une seconde, on dit « Ah, j'ai Denise Gattard ». Et on se dit le commun des mortels, où les gens ne vont peut-être pas forcément s'en douter. Surtout quand ce sont des objets comme la céramique qui ont avant tout une fonction, quoi. Un pichet, les gens peuvent s'en servir très bien au quotidien sans trop se soucier de ce dont il s'agit. Et en ce moment, les très belles surprises, c'est avec les bijoux, effectivement, parce que le cours de l'or est très fort. Donc c'est un bon moment pour vendre et il y a des vraies belles surprises. Hier, en journée d'expertise, il y avait une dame qui avait une petite trousse avec 3-4 bracelets et elle pensait qu'ils étaient tous en métal doré. Et en fait, il y en a un, j'ai ouvert le fermoir. Souvent, le poinçon est bien caché dans le fermoir et ça, on ne pense pas à le regarder. Et c'était de l'or, donc en fait, le bracelet à lui seul valait entre 1500 et 2000 euros. Donc c'est toujours beaucoup de surprises et surtout, là aussi, ça peut être dangereux de juste vendre l'or au poids de l'or. C'est que des fois, il y a des poinçons de maître et donc des poinçons de joaillier qui sont beaucoup plus recherchés, des grands maîtres comme Georges L'Enfant par exemple, enfin des poinçons où c'est vrai que si on ne se penche pas dessus avec une loupe et en faisant appel à nos connaissances, on ne peut pas se douter que le bijou il vaut pas seulement le poids de l'or mais qu'il vaut 5 fois le poids de l'or parce que c'est un joaillier très réputé et très collectionné. Pareil, les moindres petites broches Van Cleef & Arpels, ce quartier, il y a beaucoup de modèles aussi qui en disent long sur l'histoire des maisons joaillières. Des fois, on peut se dire, ces quartiers, ça doit avoir une certaine valeur, mais en creusant, on va s'apercevoir que c'est une période de création encore plus recherchée, un commanditaire du bijou très connu, et qu'en fait, le bijou peut valoir du simple au double, voire plus. Donc c'est vrai que c'est notre rôle de venir déceler tout ce qui va permettre d'augmenter la valeur de l'objet et des choses que tout le monde ne peut pas forcément faire soi-même, quoi.
L'œil humain et les recherches et la connaissance, ça remplacera pas donc les intelligences artificielles? Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez dans le futur ou justement, en fait, ça remplacera jamais l'œil peut-être plus précis de l'humain?
Alors personnellement, c'est quelque chose que je ne crains pas parce que comme vous dites, rien ne remplace l'œil humain. Il y a parfois quelque chose d'un peu inexplicable dans la patine d'un objet, dans l'ancienneté qu'il a l'air d'avoir, dans juste ce que l'objet dégage, qui nous dit, qui nous donne un peu l'intuition de voilà, ça c'est plus ancien, ça appartient à telle main, ça c'est fait par tel peintre. L'intelligence artificielle, elle peut avoir des applications dans notre métier, mais uniquement, par exemple, pour certains suivis administratifs, des choses comme ça. Mais si vous parlez de tout ce qui est reconnaissance visuelle des objets, en général, nous, on s'en sert peu, en fait, voire pas du tout. Voilà, je connais très peu de confrères qui s'en servent. En revanche, certains vendeurs, certains clients... s'en servent beaucoup et viennent nous voir parfois, et c'est une petite difficulté pour nous, mais qu'on arrive à dépasser. Mais c'est parfois une difficulté quand vous avez quelqu'un qui apporte un objet et qui nous dit, bah, je sais ce que j'ai, c'est Google Lens ou c'est Gemini qui m'a dit que voilà, c'est de telle époque. Et alors nous, c'est pas bien grave parce qu'on adore faire ça, mais ça nous pousse à faire beaucoup plus de pédagogie. Et en fait... ça mène à des discussions parfois vraiment passionnantes parce qu'on leur dit, bah, attendez, on va faire l'expertise ensemble, on se pose, je vous donne ma loupe, regardez, là ça se passe comme ça, la matière elle est comme ça, donc ça veut dire qu'on peut être qu'à telle époque, là regardez le poinçon, etc. Et en fait, on arrive à faire participer des gens par ce biais-là à nos expertises, et en fait non seulement ça leur permet de prendre conscience de la complexité de ce que c'est de regarder un objet dans son entier, de le remettre dans son contexte, voilà, que ça leur permet de comprendre que l'intelligence artificielle, elle remplace pas des années d'études et des années à engranger des connaissances. Et en fait, c'est très sympa finalement, parce qu'on se retrouve avec des clients qui ont notre propre loupe et notre balance, voire nos acides pour tester les métaux précieux, nos petits produits chimiques, et qui participent à l'expertise, et en fait, qui redécouvrent aussi leurs objets en les manipulant d'une certaine façon un petit peu différente. Donc ça, c'est... En fait, non, c'est plutôt finalement pas mal l'intelligence artificielle.
Que vous avez, voilà, pour le courant de l'année 2026 ou pour les années à venir, des projets aussi, d'autres voilà, journées d'expertise, j'imagine que oui, mais est-ce que vous avez des idées, des projets à faire toutes les deux ou dans vos régions? Comment ça va se passer?
On a plusieurs projets, en fait, les journées d'expertise, on essaie d'en avoir... idéalement deux par mois. Là, on s'est lancé toute fin février. On a déjà eu 4 journées d'expertise. Donc ça, on avait vraiment fait exprès d'en prévoir beaucoup au lancement. Mais l'idée, c'est de répondre à la demande aussi, parce que quand on voit qu'il y a un endroit où ça a bien pris, où il y a eu du monde, on est toujours très heureuse de pouvoir réitérer. Des fois, ça vient aussi à la demande des lieux qui nous accueillent. On attend la confirmation et de pouvoir communiquer, mais donc il y en aura prochainement une dans le Nord. Il y en aura aussi peut-être un peu plus tard dans d'autres lieux de la région sur lesquels on est en train de travailler aussi. Mais en tout cas, l'idée, c'est de rester disponible et même cet été d'en organiser aussi, parce que il y a un peu cette idée reçue que l'été, il ne se passe rien, mais en fait, dans notre métier, ce n'est pas le cas. L'été, c'est aussi les moments où les gens, s'ils ont une demeure familiale à vider ou autre, c'est vraiment l'été que les gens font leur tri, qui se questionnent. Souvent, on reçoit beaucoup de demandes d'expertise pendant les vacances, que ce soit les vacances scolaires dans l'année ou la période de l'été. Et après, l'idée, c'est aussi de, à terme, avoir notre local qu'on projette plutôt pour la rentrée. I see the stars
above the night. Nous étions en compagnie d'Héloïse et de Sophie, toutes les deux commissaires-priseurs en région Hauts-de-France, Île-de-France et Normandie. Un reportage réalisé par Chloé Lagnès pour RPL Radio.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France. Mountain.